En esprit et en vérité 01 Le culte et la vérité. Le critère de la vérité. Un culte selon la vérité doit être fondé sur la Bible. C'est le Christ lui-même qui nous apprend où se trouve la vérité. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17h15, 16, la Bible n'est pas une série de dictons épars ou l'énoncé de pensées abstraites, pur fruit de la réflexion et du langage de l'homme. Cette Bible, qui est la parole de Dieu, la vérité, a été donnée dans le cours et dans le cadre de l'histoire. Pour l'Ancien Testament, histoire des premiers hommes, histoire des pères d'Israël, histoire du peuple d'Israël, pour le Nouveau Testament, histoire du salut accompli par le Fils de Dieu, Messie d'Israël venu en chair, et histoire du salut se manifestant et se propageant à travers les sauvés, l'Église. Parce que l'Écriture s'inscrit dans une histoire plus vaste que celle de ma propre vie ou de celle de l'Église, tel ou tel passage biblique n'est pas toujours personnellement adressé ou ne concerne pas les chrétiens, bien que l'Écriture leur soit utile dans sa totalité, 2 Timothée 3h16, 17. La notion de testament, ou plutôt d'alliance permet de distinguer la personne, ou les personnes, directement concernées par tel ou tel passage. Cette distinction vaut également pour la doctrine chrétienne du culte. C'est le Nouveau Testament, pris dans sa totalité, qui traite directement de la doctrine du culte chrétien. Toutefois, rejetons-nous pour autant tout principe ou tout exemple tiré des Écritures de l'Ancienne Alliance ? Non, car l'Écriture tout entière nous est utile et nécessaire, confère 2 Timothée 3h16, 17, Romains 15, 4, 1 Corinthiens 10, 6. Mais nous devrons toujours prendre garde à faire judicieusement la distinction entre les deux alliances, c'est-à-dire, d'une part, l'alliance concernant spécifiquement le peuple d'Israël et, d'autre part, l'alliance qui gouverne l'Église du Christ. En ce qui concerne le culte, le contraste entre les deux testaments est évident et souligné à maintes reprises par Jésus, ses apôtres et ses prophètes. Mais contraste ne signifie pas contradiction ou opposition. S'il y a contraste, c'est parce que l'ancienne alliance, par rapport à la nouvelle, est l'ombre ou le type de la réalité, le pédagogue qui conduit l'enfant au maître. Ainsi, le ministère de la loi, celui de l'ancienne loi, a été passager. Il est aujourd'hui remplacé par un ministère bien plus glorieux, Hébreux 8, 1 à 6, Galates 3h24, 25, 2 Corinthiens 3, 4 à 11. Puisque l'ancienne alliance préparait la nouvelle, il n'est pas surprenant que l'on retrouve la seconde dans la première et vice-versa, un peu comme l'on retrouve l'enfant dans le père et le père dans l'enfant. Il est donc utile non seulement de contraster, mais encore de comparer les deux alliances. C'est à cette condition seulement que l'on pourra avoir une vue d'ensemble juste et harmonieuse de toute la parole de Dieu, de toute la vérité. Le critère du culte qui doit être rendu à Dieu est donc la Bible tout entière interprétée en fonction des doctrines qui sont définitivement établies par Jésus-Christ, ses apôtres et ses prophètes et qui sont contenues dans le Nouveau Testament, conféré Hébreux 9, 1 SS. Sincérité et vérité car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Dans l'étude que nous entreprenons, il est bon, avant tout, de considérer les principes éternels et fondamentaux de la vérité biblique, tels qu'ils sont énoncés et développés par ceux qui ont parlé alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit et qui doivent demeurer le cadre à l'intérieur duquel il faut toujours replacer tout thème ou toute question biblique. La mission première des prophètes, c'est-à-dire des porte-paroles de Dieu, consistait, avant tout, à confirmer ces vérités éternelles auxquelles l'homme doit sans cesse se référer s'il veut connaître le Dieu qui ne change point. C'est sur cette base qu'ils ont été les messagers de l'avenir, les dispensateurs de ces choses qui nous sont maintenant annoncées par l'Évangile. 1 Pierre 1h10 12. Ésaïe, par exemple, exhorte le peuple à retourner à la loi et au témoignage, Ésaïe 8h20. Jésus vient non pour abolir mais pour accomplir la loi et les prophètes. Le sermon sur la montagne est en réalité un sermon de prophète car il vise l'accomplissement par l'homme, de la loi de Dieu, il exige une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, il demande qu'on soit parfait dans l'amour comme le Père Céleste est parfait, Matthieu 5h17, 20,48. Cette double exigence d'un retour à la loi et au témoignage et d'un regard vers ce qui est parfait, c'est-à-dire accompli, doit prévaloir en toute chose. En ce qui concerne le culte, les hommes s'écartent volontiers de cette double exigence. Ils s'accrochent alors aux habitudes ancestrales, qu'ils appellent tradition et qui leur tiennent lieu de loi, conféré Ézéchiel 20h18, tout en donnant libre cours à l'imagination, qu'ils appellent le cœur et qui leur tient lieu de sincérité. Le premier péché de l'homme après la triste expérience du jardin d'Éden fut non pas un meurtre mais un acte d'adoration. en l'occurrence, un sacrifice non conforme à la volonté divine, Genèse 4, 1 SS. Le meurtre ne vient qu'après. Dès l'histoire de Caïn, nous voyons l'importance du culte dans la vie individuelle et dans la vie collective. Caïn, puis plus tard Israël, durent apprendre qu'il ne suffit pas d'adorer un seul Dieu. Le culte est d'abord une question d'obéissance, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les teraphim. 1. Samuel 15h22, 23, Saul voulait bien adorer le Dieu unique, mais à sa façon à lui et non selon la volonté de l'Éternel. La sincérité est un sentiment humain. On a raison de croire qu'elle est essentielle pour adorer Dieu. Mais comme tout autre produit du sentiment humain, la sincérité ne saurait se passer d'une direction, celle de la vérité. Nous avons vu que la Bible est la vérité. Mais derrière les phrases et les mots, il faut voir celui qui parle. La Bible n'est la vérité qu'en vertu de celui qui parle dedans. La vérité n'est pas simplement dans un livre, elle est dans un livre qui rapporte la parole vivante de Dieu, et le mot « parole » en hébreu signifie plus que mot, l'hébreu « dabar » signifie aussi « cause », « raison d'être ». La question de Pilate, « qu'est-ce que la vérité ?» ne mérite pas de réponse car c'est une question mal posée. Qui est la vérité ? Qui parle avec vérité ? Qui agit avec vérité sont les questions essentielles car la vérité ne peut être réduite à la catégorie d'une chose. Ce qui est moral et spirituel a sa source dans une personne morale et spirituelle, l'Éternel. La vérité ne peut donc jamais être dissociée de l'unique personne qui en soit la cause et le modèle, le Dieu de vérité, confère Psaïe 65, 16, du plus profond de lui-même à la plus infime de ses œuvres. Dieu est vérité. Il agit donc avec vérité. Ce qu'il dit est la vérité. Le Fils de Dieu, celui qui fait connaître le Père, manifeste aussi la vérité. 1. Il est la vérité, Jean 14, 6. 2. Il agit pour rendre témoignage à la vérité, Jean 5h33, 18h57. 3. Il parle avec vérité, Jean 8h46, Marc midi 14. La vérité existe donc en Dieu et dans ce qu'elle révèle de Dieu. Elle existe donc indépendamment de nous. Nous n'avons pas à la produire mais à la recevoir comme nous recevons la vie. Et lorsque nous recevons la vérité, celle-ci nous change, c'est en lui que vous avez appris à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, Éphésiens 4h22-24, adorer Dieu selon la vérité, c'est donc, tout d'abord, imiter Dieu, et nous le pouvons car nous sommes créés à son image. Nous obéissons à la vérité lorsque les paroles de Dieu deviennent notre et que les actions de Dieu deviennent nos actions. À quoi se réfère le mot culte ? Le Nouveau Testament décrit à l'aide de plusieurs termes ce que nous appelons, parfois dans un sens restreint, le culte ou l'adoration. Il n'est pas erroné de dire qu'en s'assemblant les disciples de Jésus rendent un culte à Dieu. Mais il ne faut pas restreindre le culte, l'adoration, à cette expression collective. Le culte n'est pas, dans le Nouveau Testament, circonscrit à une expression communautaire, il n'est pas non plus circonscrit à quelques actes tels que la prière ou le chant, enfin, il n'est pas circonscrit par le temps ou par l'espace. 1. En hébreu vérité, foi ou croire proviennent de la même racine. La vérité, amen, croire, aman, qui signifie s'appuyer. Le Dieu de vérité dont parle Esaïe est celui en qui l'on peut croire, c'est-à-dire celui sur qui l'on peut s'appuyer. Dieu est celui qui porte et soutient, Nombre 11h12, celui qui garde, Ruth 4h10, celui qui assole l'idée ferme, 1 Samuel 2h35, 25, 28, Ésaïe 7, 9, celui en qui l'on peut se fier et sur qui l'on peut bâtir, Deutéronome 7, 9, Ésaïe 49, 7, Osée 12, 1. Mais alors, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas une norme, une doctrine précise, de ce qui constitue un culte agréable à Dieu ? Nullement. Seulement, dans la Nouvelle Alliance, le culte a rapport à la totalité de la vie de l'enfant de Dieu, à la totalité de la vie du peuple de Dieu. La vie tout entière de l'Église, et de chacun de ses membres, doit se modeler sur la vérité, et c'est la Bible qui constitue pour nous cette vérité. Or, selon la parole de Dieu, ce n'est pas uniquement le dimanche matin à l'heure du culte qu'on adore Dieu et qu'on doit prendre garde à l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas uniquement lorsqu'on veut vénérer Dieu par la musique qu'on doit se conformer à la révélation divine. Nous devons croire que chaque geste, chaque pensée, chaque prière, chaque louange prend la dimension d'un culte à Dieu. Et c'est partout et en tout temps, au travail, à la maison, entre amis, que le chrétien adore, ou n'adore pas, le Seigneur. Mais alors, diront encore certains, les chrétiens n'ont plus besoin de s'assembler. Ils n'ont plus besoin de venir ensemble pour rompre le pain, pour persévérer dans l'enseignement des apôtres ou dans les prières. Le premier jour de la semaine n'a plus un sens particulier. Ceux qui réagissent ainsi ignorent sans doute la raison d'être des assemblées de l'Église. Par ailleurs, ils ignorent la signification toute particulière du premier jour de la semaine et du pain qu'ils doivent rompre en ce jour. Lorsqu'on parle du culte comme se rapportant à la totalité de la vie chrétienne, on prend donc en considération une norme, une doctrine sous-jacente. Cette étude n'a pas pour but de développer une théorie ou une théologie originale du culte. Nous recherchons non l'originalité mais la fidélité. Que croyaient, que pratiquaient les premiers chrétiens sous la direction des apôtres? C'est cela que nous voulons faire ressortir au long de ces pages.